Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vos cœurs. Amen. Merci Léon pour la présidence. Merci au Seigneur pour le moment que nous venons déjà de célébrer la première partie. Je vous invite à la prière. Dieu de bonté, nous voici encore en ta présence pour t'exprimer notre reconnaissance, comme nous venons de le chanter, comme nous venons de le célébrer. À la Sainte Seine, tu nous as rachetés à la croix. À la croix, Christ s'est donné pour nous. Rien ne pourra valoir ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Nous voici en tant que petits enfants à tes genoux. Nous voulons que tu nous parles, toi qui nous connais très bien, toi notre berger. Nous voulons être instruits par toi, corrigés par ta parole, éclairés par ta parole. Que ton Esprit Saint puisse diriger cette deuxième partie. Et que seulement ce qui glorifie ton nom sortait de ma bouche, ce qui glorifie le nom de Jésus, nous dirige, nous conduit. L'Esprit de Dieu conduit toutes choses. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous voici arrivés au dernier chapitre de l'Épître de Paul aux Corinthiens. Ça va faire plus d'un an que nous avons commencé cet épître. Vous l'avez compris, nous l'avons compris, une correspondance qui visait avant tout un changement de comportement chez les Corinthiens. Le problème le plus important était son attachement, l'attachement de cette Église au monde, son refus de se distinguer de la société environnante. Un commentateur dans la Bible, James Moffat, a résumé cette situation en disant, la situation qui se trouvait chez les Corinthiens, l'Église était dans le monde, chose normale, mais le monde était aussi dans l'Église, chose anormale. Le problème de se distinguer. Lors des deux précédentes prédications, les deux dernières prédications portant sur le chapitre 15, l'apôtre Paul nous présente un exposé le plus complet de toute la Bible sur la résurrection. À travers ce chapitre, l'apôtre nous a expliqué de la résurrection de Jésus-Christ et de la résurrection des croyants. Selon les évangiles. Il conclut ce chapitre au verset 58 que nous avons lu dimanche passé. Je vous invite à prendre encore ce verset que je trouve aussi important pour nous, un encouragement. Il souligne l'espérance de la résurrection qui donne sens à tout ce que nous faisons, à tous les efforts, à tous les sacrifices accomplis pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce verset nous dit qu'aucune œuvre faite en son nom, au nom du Seigneur Jésus, n'est vaine. Pour l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Un appel pour nous tous à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Chaque chrétien devrait se poser la question, à la fin de sa course, ai-je fait de mon mieux? Ai-je vraiment fait ce que je devrais faire pour le Seigneur? Ai-je vraiment donné le meilleur de moi-même? C'est sur base de cette exhortation que l'apôtre Paul introduit le chapitre 16 qui nous concerne ce matin, où il donne les recommandations qui concernent des responsabilités pour l'Église. En imprimant mon support ce matin, j'avais fait l'étude sur tout ce chapitre, mais je me suis rendu compte que j'ai deux prédications dans ma main, et j'ai compris pourquoi mon épouse m'a dit « Cette fois, ça t'a pris du temps pour préparer toute la semaine. » Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est vous éviter un sprint de tout le chapitre. Mais nous allons faire un marathon. Nous allons y aller doucement, mais sûrement. Et nous allons traiter la première partie que Paul nous exhorte, nous parle, qui concerne des questions économiques, les finances. Donc je lis la parole de Dieu à partir du verset 58 du chapitre 15 et les cinq premiers versets du chapitre 16. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Chapitre 16. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, en fait qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille, moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Ici s'arrête notre lecture. À nos visiteurs, il n'est pas d'habitude que nous parlions des questions des finances. Ce n'est pas l'habitude de la maison de parler de l'argent, mais nous nous soumettons à la parole de Dieu, et c'est le cas ce matin. Il sera question de l'argent, question des finances. Comment gérer nos fonds, ce que le Seigneur met à notre disposition. Et si vous cherchez, vous avez une épargne, vous cherchez une action, je veux dire, qui pourra vous apporter un rendement toute la vie, un dividende toute la vie, alors je pense que vous êtes au bon endroit, parce que la parole de Dieu va nous éclairer de faire une action qui en vaut la peine. De quoi s'agit-il dans ces cinq premiers versets? Au premier verset, Paul demande aux Corinthiens de participer à une collecte de fonds destinée aux saints de Jérusalem, et ses instructions à ce sujet sont claires. La composition de la collecte, c'est les fonds des croyants qui donnent de leur argent. Oui, de leur argent. Pourquoi l'argent? Je me suis posé la question. D'ordre pratique, on peut s'imaginer que, ne connaissant pas Paul qui est à Éphèse, qui demande aux Corinthiens de récolter, lui-même ne connaissant pas des besoins réels qui se trouvent à Jérusalem, il était de préférence de demander qu'on récolte l'argent. Le transport des biens étant ce qu'il était à l'époque, il serait très difficile de récolter les habits, les aliments, pour les faire quitter Corinthe et jusqu'à Jérusalem. Donc l'argent, moyen pratique pour envoyer aux nécessiteux de Jérusalem et que pour eux puissent alors résoudre les problèmes qu'ils confrontaient. Sur le plan spirituel, l'argent, la parole de Dieu nous interpelle également. Faire un don de son argent est un moyen d'apprendre à ne pas s'y attacher.
Car l'amour de l'argent, dit la parole de Dieu, est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. C'est la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Pourquoi l'argent ? Parce que savoir gérer son argent est un signe de fidélité envers Dieu, son vrai propriétaire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, dans les 13 versets de ce chapitre, et le premier 13 versets de ce chapitre, nous y voyons Jésus qui raconte la parabole de l'intendant malhonnête. Il nous met en garde contre une mauvaise gestion de notre patrimoine. La leçon dans cette parabole, au verset 11, Jésus dit ceci: « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ?» La façon dont nous gérons notre argent est un signe d'obéissance envers Dieu qui nous l'a confié. Et cela influencera grandement la façon dont Dieu nous utilise avec son peuple. Dans ce que Jésus dit, il qualifie l'argent comme des richesses injustes et qualifie le peuple de Dieu comme des biens véritables. Selon cette parole, celui qui a du mal déjà à gérer ses biens financiers, il sera aussi dans l'incapacité de pouvoir diriger un groupe de personnes, le peuple de Dieu. Une recommandation de l'apôtre de Paul à Timothée, que nous trouvons dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 17 et 19, il lui dit ceci: « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en de belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Au verset 2 de notre texte qui nous concerne, après qu'on ait détaillé de pourquoi la collecte de l'argent, la parole de Dieu est claire au sujet de qui doit donner, combien et à quelle fréquence. Qui donne, selon les instructions de Paul, la parole de Dieu, est appelé à participer à la collecte tout croyant qui participe au culte. Nous avons un modèle dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32. J'ai pris ce texte qui peut nous servir d'image. Donc, tout croyant qui participe au culte est appelé à participer au don. Actes chapitre 4, verset 32 nous dit ceci: « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Et une grande grâce est reposée sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds de ces apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Si s'arrête notre lecture au verset 35. En regardant ce schéma, ce qui se passait parmi les croyants de l'Église primitive, et en réfléchissant à la manière dont nous, du moins moi, je sers le Seigneur avec nos finances, et je pense que je suis le modèle qui se fait aujourd'hui, on voit combien il y a l'écart entre la pratique des premiers chrétiens et ce que nous, on nous demande d'apporter pour le Seigneur. Quelqu'un me dirait, ça c'est pour l'Église primitive, nous sommes en 21e siècle. Mais je me suis rendu compte que nous avons suivi le même Seigneur. Nous, d'aujourd'hui, que ces chrétiens qui vendaient tout, qui amenaient tous ensemble pour qu'on puisse partager, il n'y ait plus le besoin. Je me suis posé la question si aujourd'hui on donnait cette annonce. Comment réagirons-nous? Tout vendre, emmener ensemble, partager pour les autres. C'est un sujet de réflexion, je pense, pour nous tous. Que le Seigneur nous éclaire. Dans ce verset, il est question aussi de combien on doit donner. Donner combien? Paul en parle. Chacun donne en fonction de ses moyens, selon sa prospérité. Comme tout le Nouveau Testament, l'apôtre Paul ne précise jamais le montant ni le pourcentage de ce qui devrait être donné pour l'œuvre du Seigneur, contrairement au principe d'obligation de donner les trois dîmes tels que c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ce qui est poursuivi sous l'ère de Jésus-Christ, c'est l'état du cœur qui donne. Un pasteur anglais, Charles Spurgeon, a dit au sujet de la dîme, « Sur la croix, Jésus n'a pas demandé 10%, mais il a tout donné. » C'était la question à la Sainte-Sainte. Il a tout donné. Il nous appelle à vivre avec le même esprit de don total. La nouvelle alliance ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en sacrifice vivant. Nous sommes appelés à présenter nos corps, nos vies, notre obéissance, une offrande, et cela inclut nos biens, oui, mais aussi la vérité, l'intégrité, le renoncement. Fin de citation. Un message qui nous éclaire, ce qui compte, l'action qui en vaut la peine, commence d'abord dans le cœur. C'est l'histoire du cœur qui va donner, la motivation. Et le Seigneur Jésus lui-même en parle dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Le Seigneur Jésus nous éclaire sur ce qui concerne les dons. Vous vous rappelez l'histoire de la veuve au chapitre 12 de l'évangile de Marc. Vous pouvez suivre au verset 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis que elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qui impressionne Jésus, ce n'est pas la quantité. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est l'intention qui pousse celui qui donne à donner. L'intention dans son cœur. La pauvre veuve donne son nécessaire. Bien que son nécessaire soit considéré comme une petite somme, il en vaut autant pour le Seigneur, plus que tous ceux qui ont donné leur superflu. Que chacun donne donc comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Faire un don, c'est une résolution d'abord du cœur. Une action qui dure, qui gagne et qui rapporte devant le Seigneur. C'est un don qui puise sa source dans l'amour de son cœur, dans son cœur. Voilà l'action. L'action qui dure, l'action qui rapporte, l'action qui vaut, qui est visible devant le Seigneur. C'est cette action, ce don que nous pouvons faire, mais en y réfléchissant, parce que l'amour du Seigneur nous pousse à le faire. L'apôtre Paul nous parle également dans ce verset, à quelle fréquence doit-on faire le don? Sa réponse est que chaque dimanche, le jour du culte, nous devrions donner. Chaque dimanche, le jour du culte. Nous l'avons vu, la façon dont nous gérons notre argent est intimement liée à la profondeur de notre culte. Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 34, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est pour cela que là, Paul rappelle encore que chaque dimanche, il faut y penser. Non seulement pas juste récolter beaucoup, mais le fait d'y réfléchir chez soi, à la maison, nous donne le temps de nous préparer à ce que nous allons faire le jour du culte et aussi nous donne cette possibilité de réexaminer nos finances, ce qui est pour notre propre bien également, parce que ça me permet chaque dimanche, au moins chaque semaine, de dire où en suis-je avec mon épargne, où en suis-je avec ce que j'ai prévu pour le Seigneur. Un bon cours de gestion des finances, n'est-ce pas? Donc, chaque dimanche, pour celui qui participe au culte, rappelons que le but de notre don est de soutenir l'Église qui a la responsabilité de subvenir aux besoins de ses fidèles et de ses responsables. Et au-delà d'aider toute personne que nous croisons sur la route qui souffre et qui a un besoin, qu'elle soit chrétien ou non chrétien. Je me prépare chaque semaine. Je me prépare parce que je ne sais pas la personne que Dieu va mettre à ma disposition qui est dans le besoin et que Dieu veut que j'ouvre ma main pour la bénir. La parole de Dieu nous exhorte à donc prêter attention à une fréquence hebdomadaire à la manière dont notre argent est géré. John MacArthur disait que notre façon de gérer notre argent est la manière est un baromètre de notre spiritualité. La manière dont nous intégrons Dieu dans nos finances, dans notre épargne, dans ce qui reste, dans nos projets, est un baromètre de notre spiritualité. À chacun de nous d'évaluer, du moins de s'évaluer. Au verset 3 de notre texte, c'est là où Paul nous parle et qui est le bénéficiaire de la collecte. Les offrandes récoltées sont destinées au sein de Jérusalem. L'apôtre Paul avait auparavant sollicité la générosité des églises de la Galatie, de la Macédoine, de l'Alcaïe en faveur de l'église des saints à Jérusalem. Il dit ceci dans son épître romain au chapitre 15, verset 25, il en parle. « Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine, de l'Alcaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. » La collecte est destinée en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. On dit que la ville de Jérusalem, à cette époque, avait un grave problème de pauvreté. L'Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 27, nous révèle qu'il y a eu une famine à Jérusalem. Et lorsqu'on parcourt les premiers 8 chapitres de l'Épître de l'Acte des Apôtres, on voit également la persécution des chrétiens, ceux qui venaient à Christ, combien ils étaient maltraités. Et depuis la Pentecôte, les pèlerins qui venaient à Jérusalem, nombreux restaient. Il y avait d'autres qui s'ajoutaient également, ceux qui faisaient la surpopulation de cette ville, plus la famine, plus la persécution. Et cela a généré une crise financière dans l'Église et la pauvreté y a pris place. Et Paul était au courant. Voilà pourquoi il tenait à ce que les autres croyants puissent participer à aider ces chrétiens qui étaient dans le besoin. Il avait reçu, il en parle en Galates au chapitre 2, verset 9, une sorte de mission lorsqu'il s'est présenté aux responsables de l'Église à Jérusalem. Il a reçu une mission officielle de se souvenir aux pauvres. Dans ce chapitre, au Galates, verset 9, lui-même le dit qu'il a pris la chose au sérieux. Voilà pourquoi, là où il partait dans ses missions, il n'a pas oublié qu'il a ce devoir, cet appel de sensibiliser les autres pour se souvenir des pauvres. Par ailleurs, l'action de Paul de mobiliser les collectes pour l'Église des saints de Jérusalem n'est pas seulement sociologique, c'est aussi théologique. Un commentaire de la Bible souligne que Paul utilise sciemment le mot de koinonia lorsqu'il désigne le terme de collecte. Ce terme qui veut dire, ce mot qui veut dire communion. Donc, Paul utilisait ce mot de correct pour dire il y a derrière l'idée de communier, de faire participer ceux qui ne sont pas de l'Église de Jérusalem et ceux de l'Église de Jérusalem qui, au départ, est juif, dans le but de faire une sorte d'unité du corps de Christ. Paul connaissait l'animosité qui existait entre l'Église juive et les autres églises que les Juifs considéraient appelées les gentils, les païens qui se sont convertis au christianisme, Et Paul savait que cette animosité existait toujours. Mais en collectant les dons au bénéfice de l'église de Juifs, des Juifs à Jérusalem, Paul y voyait l'union dans son partage. Il disait, s'ils vont accepter ces fonds, et les dire que ce sont les gentils qui fassent ce geste de les aider, peut-être que ça aiderait à l'unité du corps de Christ et ce qui était en effet une motivation pour lui, non seulement une action sociologique pour aider les pauvres, mais également dans le but d'unir le corps de Christ. Un pasteur a écrit, on ne peut pas partager l'argent sans partager la communion. En organisant cette action sociale pour la collecte, Paul voulait non seulement un soutien aux pauvres, mais il visait également l'unité du corps de Christ entre les Juifs et les gentils. On ne peut ne pas se poser la question où en est l'action sociale pour les nécessités aujourd'hui dans nos églises, et plus particulièrement de ce qui nous concerne, nous, à la rue du Moniteur. Comment se porte-t-elle? Comment s'organise-t-elle? Une question que chaque serviteur du Seigneur devrait se poser, et je dirais même doit se poser. Quand on regarde le parcours de Jésus, on voit que la plupart du temps, il faisait du social. Christ le disait lui-même, est venu pour les pauvres, non seulement les pauvres en esprit, mais aussi il s'intéressait au vécu, au quotidien des uns des autres. Donc, se poser cette question de où en est-nous? Où en sommes-nous au niveau social, dans l'action sociale, en vaut la peine si nous voulons être vrais devant notre Seigneur. J'ai trouvé un point commun avec notre Église en ce que disait John MacArthur à ce sujet. Je le cite. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Il voulait dire qu'aujourd'hui aussi, il y a des nécessités. Il y a toujours des pauvres, il y a toujours les gens qui ont besoin que les autres leur tendent la main. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Dans notre société, c'est le gouvernement qui s'en charge. Et je crains que, bien souvent, l'Église hésite un peu trop à faire ce qu'elle doit faire pour répondre à ses propres besoins et à ceux de sa population. Je pense que nous profitons, je cite toujours John MacArthur, je pense que nous profitons parfois des opportunités offertes par le gouvernement alors que nous devrions donner au nom de Jésus-Christ. Fin de citation. Il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas? Combien de fois nous pensons directement au CPAS, Centre public d'action sociale, lorsqu'on nous parle de l'action sociale dans l'Église? Et si on devrait donner une note sur 10, combien donnerions-nous à notre Église, à nous-mêmes, au fait? Parce que l'Église, c'est vous et moi. Existe-t-il des nécessités autour de nous où l'existence du CPAS dans nos têtes nous fait oublier notre responsabilité de chercher en tant que chrétien, de les chercher en tant que chrétien au service du Seigneur Jésus? Je pense que je fais partie des premiers qui sont concernés par ces questions. Parce que je ne vise personne, je fais partie de l'équipe qui gère l'Église. Mais c'est à nous de nous poser ces questions. Et c'est à nous également de y répondre. Nous l'avons dit en introduction, et notre frère Eric, concluant la prédication de la semaine passée, nous a encore cité, partagé ce passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qui nous exhorte à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Nous pouvons faire mieux dans le domaine social au sein de notre Église. Tu peux faire mieux selon les moyens que le Seigneur te prête, mais à ta disposition. Je peux faire mieux avec les moyens que le Seigneur met à ma disposition. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 13. 1 Jean, chapitre 3, verset 17, pardon. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? J'ai pris cette question pour moi-même. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Il est question d'amour en nous-mêmes. Il est question également de voir. Est-ce que faisons-nous l'effort de voir ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Pouvons-nous essayer de questionner notre amour au fond de nous-mêmes pour que notre amour puisse nous diriger, nous guider à voir, à chercher ceux qui nous entourent, qui sont dans le besoin? J'ai eu honte lorsque j'ai appris que pendant Covid, parmi nous, il y avait des étudiants qui n'avaient pas de quoi manger. J'ai eu honte, je ne vous le cache pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Ben oui. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos oreilles. Que le Seigneur nous aide. Parce que parmi nous, il y a aussi des nécessiteux. Il y a une sœur qui a pris le courage de dire, ça fait longtemps que je ne mange pas des légumes. Et ça me manque. Ça devrait nous parler, ça devrait nous inciter et à ouvrir les yeux et voir et à questionner notre amour au fond de nous-mêmes et à pratiquer l'amour. Je vous ai promis de ne pas vous faire un sprint ce matin avec le reste de ce chapitre. Mais je pense que déjà cette première partie nous interpelle tous, chacun selon ses moyens. Quelle est l'intention qui te motive en termes de faire du bien. Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu penses aux autres? Comment peux-tu soutenir l'action sociale parmi nous? Comment pouvons-nous nous réorganiser? Si nous nous mettons ensemble et que ça nous tient à cœur, nous allons y arriver. Nous en sommes tous témoins que chaque fois que les chrétiens se mettent ensemble, avec le peu qu'ils apportent, le Seigneur multiplie. Ça, c'est la formule spirituelle. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'ouvrir notre main. C'est parce qu'aussi il veut nous bénir. C'est lui le propriétaire de ce que nous pensons être notre propriété. C'est lui qui nous prête pour que nous puissions utiliser ses moyens à son service. Si nous nous mobilisons pour activer l'action sociale parmi nous, vous allez voir combien les nécessiteux qui sont parmi nous seront visibles. Pardon. Que le Seigneur nous aide. Mise en pratique de ce message, souvenons-nous des pauvres et œuvrons pour la communion dans le partage pour l'unité du corps de Christ. Tant que cela se dit aujourd'hui, servons le Seigneur et donnons le meilleur de nous-mêmes. Quant à votre dîme ou votre offrande, vous pouvez toujours faire mieux. Je peux toujours faire mieux. Faites votre mieux. Examinez d'abord l'intention de votre cœur avant d'effectuer tout don. Il doit être un acte de reconnaissance fait par la foi et non par peur. Votre don doit être un acte d'amour pour l'œuvre du Seigneur, non, et non un acte conditionné selon la coutume. Pour l'action sociale de notre Église, donnons le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à prendre l'épître de Paul en Galates au chapitre 6. Nous allons terminer par ce passage. Nous qui sommes nés de nouveau en Christ, il est question de mise en pratique de la vie nouvelle. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Il est question de persévérer, même si c'est difficile, même si ça demande le meilleur de toi-même, mais la persévérance est nécessaire. Au verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Je vous invite à la prière. Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole que tu as mis à notre disposition pour nous éclairer, nous montrer le chemin. Ce que tu nous souhaites, c'est du bien. Nous en sommes certains, convaincus. Tu es notre bon berger. Tu veux toujours nous conduire dans la vérité, dans l'amour, à ton service. Merci pour les moyens que tu donnes à chacun de nous. Merci parce que c'est toi qui prends soin de nous. Même notre Église, c'est toi qui la protège. Merci pour ta présence et qui nous éclaire à travers ta parole. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, tu connais les motivations dans nos cœurs lorsque nous essayons de te servir par nos moyens. Là où tu nous trouves en défaut, pardonne-nous. Là où nous avons manqué au devoir, pardon, Seigneur, mais éclaire-nous, conduis chacun de nous, guide-nous, donne-nous un cadre dans notre communauté. Oui, incite-nous à faire du bien pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.